repérage du bibliothécaire.
Bonjour Monsieur Benigno.
Et bonjour Marc, comment vas-tu?
Ben ça va bien, on attend la pluie paraît-il.
Oui, la pluie, le froid, ouais, c'est fini tout ça. Le réchauffement climatique, c'est fini.
Ouais, c'est vrai, on va avoir un hiver terrible.
Ouais, pour quelques semaines, c'est fini.
Donc, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de beau dans cette magnifique liste d'octobre?
Alors, cette liste d'octobre, elle est bien condensée, mais bien riche, parce qu'il y a des nouveautés bon, qui sont d'ailleurs certaines candidats au prix littéraire de la rentrée, mais il y a aussi des gros policiers bien solides, comme les derniers Nesbo, par exemple, qui s'appelle Mark Veth, donc en référence à la pièce de Shakespeare, et d'autres policiers aussi, et notamment les derniers, Nicolas Feutz, que tu sais, ça vient d'être élu, et qui s'appelle « Les miroirs des âmes ». Donc ça aussi présent avec le numéro 38161, et de même que le Nesbo avec le numéro 38244. Mais je vais parler plutôt des livres qui sont un peu particuliers, parce qu'il y a deux romans, il y a deux romans écrits par des femmes d'ailleurs, qui sont pas des gros romans, mais qui sont forts et par les styles et par les contenus. Et après, je vais parler des deux documentaires qui sont aussi très intéressants, parce que les documentaires intéressent aussi un certain nombre de nos auditeurs et de nos auditrices.
Ça. Bien sûr, il n'y a pas que les polars seniors.
Exactement. Voir sans sang. Alors, on va parler de un roman, d'abord, d'une jeune auteure qui est belge, qui s'appelle Adeline Dieudonné. Pas de parenté avec les fameux et très controversés humoristes français. Et elle est belge. Et le livre s'appelle « La vraie vie ». Alors, c'est un petit livre, comme je disais. Ça se passe dans une sorte de pavillon des banlieues, des campagnes. C'est raconté du point de vue d'une jeune fille très intelligente, et très maligne, qui a un petit frère et qui a un père qui est un gros lourd, comme on pourrait dire, qui aime chasser, donc elle est du gibier, qui aime cogner sa femme aussi, et qui sème la terreur dans la maison. Ça racontait à les yeux de cette fille. Il y a un événement qui se passe un peu par hasard, mais qui rend le petit frère légèrement dérangé, voire très dérangé. Et la petite fille va essayer de trouver des moyens réels et à moitié fantastiques pour essayer de sortir son petit frère, de les racheter, de les faire revenir à un état normal, parce que ça va de plus en plus mal. Et donc ça se passe autour de cela et de ce père qui est complètement taré. Et l'histoire et la manière dont c'est raconté, c'est terrible. Et en même temps, il y a un petit côté rafraîchissant, beaucoup d'humour. Donc ça s'appelle « La vraie vie » d'Adeline Dieudonné, qui est d'ailleurs candidat à un ou trois mêmes prix littéraires. Et c'est le numéro 38540. Une autre jeune écrivaine ou auteure, ou autrice, comme on dit maintenant aussi en Suisse, la société d'auteurs et autrices suisses. Mais celle-ci, elle est française. Elle s'appelle Sophie d'Ivry. Elle a écrit déjà un certain nombre de livres. Et son dernier s'appelle « Trois fois la fin du monde ». Alors, « Trois fois la fin du monde », et pourquoi? Bon, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle déjà, c'est une sorte des contradictions dans son nom à lui-même, il s'appelle Joseph, un nom très, on va dire, occidental en partie, mais biblique aussi, bien sûr. Kamal, donc moitié musulman, moitié chrétien, il ne sait pas très bien ce qu'il est, mais qui est rejeté en prison pas à cause de son nom, bien sûr, mais à cause d'un braquage qu'il fait avec son frère. Son frère, c'est un voyou, pas lui. Lui, il le suivait un peu. Et du coup, il se trouve en prison. Une prison où il y a vraiment des vrais lourds, là où il doit survivre, il ne sait pas très bien comment. Mais c'est très dur, c'est cette première partie. Parce qu'il y a... Et puis, soudainement, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une explosion nucléaire qui va ravager le monde, on va dire. Et ce jeune Kamal, qui par une raison inconnue est protégé contre les radiations, contre tout ça, s'échappe. Et il tombe dans un monde qui est vidé des habitants. Bon, il y a une rencontre pas très sympathique, mais sinon, tout le reste est détruit. Et là, il va reprendre et réapprendre à vivre tout seul, comme si c'était une sorte de Robinson Crusoe un petit peu malmené, et dans un monde qui est à nouveau vierge d'hommes, mais pas de la nature. La nature qui reprend les dessus. Il y a des animaux, donc il arrive à avoir un mouton. Il rencontre un mouton plus ou moins sauvage qu'il essaye d'apprivoiser. Il trouve une chatte, enfin un chat, un petit animal qui va apprivoiser aussi. Et petit à petit, il va essayer de reconstruire ce monde, sauf qu'évidemment, il est seul. Il sait que quelque part, très loin, il y a des réfugiés, entre guillemets, humains qui sont là. Il n'a pas trop envie d'y aller, étant donné ce qui lui est arrivé. Mais petit à petit, voilà, il va entreprendre un chemin humain pour un peu recréer le monde à sa manière. C'est un livre très fascinant parce que la manière dont tu racontais, où il y a parfois la première personne, donc il y a Joseph Kamal qui parle lui-même avec ses tons un petit peu, c'est pas un braqueur lui-même, mais c'est un jeune, donc c'est ce style un peu jeune comme ça, et en même temps la troisième personne qui a un ton plus poétique, et ça donne un livre intéressant, voire fascinant par moment, et il est disponible le numéro 38247, donc trois fois La fin du monde.
C'est de la science-fiction ? C'est classé dans la science-fiction ?
Alors, ça pourrait, oui, tout à fait. Disons que, comme il arrive maintenant avec un certain nombre de livres, bon, depuis longtemps d'ailleurs, il y a une sorte d'enveloppe. Hein, c'est comme quand tu achètes un cadeau. Il y a l'enveloppe, c'est, on pourrait dire, d'une certaine science-fiction, parce qu'il y a une catastrophe nucléaire qui n'est pas arrivée. Enfin, en tout cas, jusqu'à cette heure-ci, l'après-midi maintenant. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu que la centrale de Fessenheim, là, en France, qui allait être fermée, le gouvernement a annulé la décision de la fermer. Donc, donc comme quoi, ils veulent vraiment que la fin du monde arrive. Bientôt, voilà, ouais, donc, peut-être qu'ils ont lu le roman. Et donc, voilà, c'est l'enveloppe de science-fiction, mais c'est clair que l'histoire elle-même, ça dépasse, ça transcende la science-fiction. Donc, c'est les 38247.
Ouais. Bien, bien, bien.
Alors ça, c'est pour ces deux romans. Et puis, il y a les deux documentaires dont je t'avais parlé, qui sont... alors, il y en a un qui, là aussi, bon, il est placé dans science, mais c'est plus que ça, parce que c'est des scientifiques. En fait, il y a 12 grands scientifiques. Si je te dis, par exemple... Alors, il y a certains qui sont très connus, et même pas forcément en tant que scientifique en soi, mais en tant qu'auteur comme Hubert Reeve, là tout le monde connaît à peu près. Mais je ne sais pas si tu connais Françoise Barret-Sinoussi.
Non.
Alors, oui. Françoise Barret-Sinoussi est virologue, et c'est une des personnes qui a le plus avancé, qui a découvert les virus du sida, en fait. Et donc, il y a Jean-Claude Amezen, il y a François Saint-Sermette qui est psychanalyste, il y a des psychologues, il y a des physiciens, etc., des généticiens. Et chacun essaye de dévoiler sa vision du monde, comment est-ce qu'ils sont arrivés à être ce qu'ils sont, comment est-ce qu'ils affrontent la réalité, la recherche, et quelle est la substance qui leur a fait être ce qu'ils ont en tant que scientifique, en tant que savant, en tant qu'être humain face à la réalité. Et donc, c'est passionnant parce que chacun fait son parcours intellectuel de vie et scientifique. Donc, c'est un livre que je pense, pas seulement à ceux qui s'intéressent à la science, mais ça va bien au-delà de cela.
Ouais, les tenants et les aboutissants de la science, en fait.
Voilà, exactement, parce que, oui, et de la science et des cerveaux des scientifiques, en quelque sorte. Mmh, et donc, tout à fait. Donc, ça s'appelle « Savoir, penser, rêver, les leçons de vie des 12 grands scientifiques », et c'est disponible, le numéro 38559. Voilà pour la science. Et puis, en sortant de la science, en entrant plutôt dans l'anti-science, il y a, mais du point de vue du contenu de l'auteur, c'est un livre extrêmement solide et un exploit d'une certaine manière, puisque c'est une synthèse incroyable de tellement d'écrits différents. Et c'est un livre d'un auteur qui s'appelle Johann Chapoutot, qui est un des plus grands spécialistes du Troisième Reich, et le livre s'appelle Hitler. Donc c'est une biographie du personnage, et, sauf que c'est une biographie qui est courte, il y a vraiment un livre qui se lit il y a très peu d'heures, en fait, mais c'est vraiment synthétique, il a pris tous les grands ouvrages, toutes les grandes recherches qui ont été faites sur Hitler, sur des périodes-là, il a extrait l'essentiel, et les a condensés dans un petit livre qui fait autour de 5 heures, je crois, quelque chose comme ça. Donc, on apprend beaucoup de choses en peu de temps et de manière très, très bien faite, très, très sérieuse. Donc, c'est Hitler de Johann Chapoutot, et le numéro, c'est les 38562.
Jolie découverte.
Mais voilà. Voilà pour. Enfin, bien sûr, il y a beaucoup plus de choses. Il y a du théâtre, il y a même des films audio décrits, mais on va s'arrêter là pour donner déjà un petit avant-goût de la sélection.
Et qu'est-ce que nous avons en cours ?
Alors, en cours, aussi bien en lecture qu'en prod, on a un bon bouquet d'ouvrages intéressants, aussi bien dans les romans que dans les documentaires. Et parmi ces livres, il y a notamment celui de l'Islandais Stefansson, un auteur qui a ses fans, c'est un auteur islandais qui est vraiment un peu la quintessence de l'Islande, parce qu'il y a de la poésie, il y a de la truculence, il y a des histoires qui se suivent avec passion. Et ce livre-là s'appelle Asta, c'est le nom du personnage, donc c'est une... Enfin, c'est d'abord une fille qui va naître, qui sera grande, qui sera âgée. C'est l'histoire aussi de son père, de ses parents. Et c'est l'histoire de l'Islande aussi, depuis les années 50 jusqu'aux années 90. Et c'est un roman qui pourrait être classé comme un roman d'amour, mais pas comme un roman d'amour à l'eau de rose, parce que y a pas grand chose qui est rose, à part les aurores boréales peut-être, et encore, parce qu'elles sont plutôt bleues, vertes. Néanmoins, de par l'intensité des sentiments, et puis il y a des lettres d'amour magnifiques qui sont écrites par Asta, donc par l'auteur bien sûr, mais par les personnages, qui sont vraiment parmi les plus belles lettres d'amour qu'on trouve dans les livres récents de littérature contemporaine. Et donc c'est un très beau livre, comme toujours chez Stefansson, c'est intense et c'est très bien écrit. Donc il est un prod, celui-là. Et puis en lecture, on a le dernier livre d'Alexandre Jolien, La sagesse espiègle, et dont je ne vais pas trop parler parce que je pense que j'en parlerai une fois qu'il sera lu. On va faire un petit détour autour de ces livres d'Alexandre Jolien. Et il y a un troisième livre qui est en lecture, enfin parmi d'autres, mais dont je parle, mais non parce qu'il vient d'obtenir les grands prix de l'Académie française. Et donc, il sera disponible, je pense, très bientôt, donc les mois prochains déjà, et pour le prochain numéro, voire avant. Et il s'appelle « L'été des quatre rois », d'un auteur qui s'appelle Camille Pascal, qui est aussi un personnage qui était dans la politique française, mais qui, « L'été des quatre rois », en fait, parle... d'une manière très bien documentée et avec un style très agréable, d'un événement assez curieux qui a eu lieu en France en 1830, entre juillet et août, donc c'est vraiment l'été. Dans ces deux mois, la France a eu quatre rois qui se sont succédés au trône. Il y a eu Charles X, il y a eu Louis XIX, qui connaît Louis XIX ? Et il y a eu Henri V et Louis-Philippe. Louis-Philippe, on connaît un peu mieux. Et donc, il y a quatre rois qui, dans un seul été, hein, se sont succédés par toute une série d'événements, des rebondissements, etc. Et tout ça est donné de manière assez étendue et foisonnante par l'auteur Camille Pascal, qui donc vient d'obtenir le prix de l'Académie française. Et donc, on va la voir très prochainement à la BSR.
Et pour le futur, qu'est-ce qu'on a de beau ? Je vois que ta table est toujours aussi pleine.
Écoute, oui, il y a énormément de choses dans ma table, comme toujours. Et puis ça se renouvelle constamment.
Ouais, c'est un petit peu comme la fontaine des Danaïdes.
Eh oui, oui, oui. Ouais, bah, c'est plutôt comme la corne de l'abondance, plutôt, je dirais.
Ah oui, d'accord.
Et donc, dans cette corne d'abondance, il y a plusieurs livres, mais il y en a un en particulier qui m'a frappé. Et plus que touché, parce que c'est un livre très fort de Saviano, l'Italien qui vient du Sud, qui a écrit sur la mafia.
Oui, d'ailleurs, qui a quelques soucis. Hein,
oui, il a écrit Gomorra, et puis la Camorra, justement, et puis aussi la Ndrangheta, et toutes ces sociétés à but non lucratif ont décrété un contrat juteux sur sa tête. Et il se cache, mais il continue à écrire. Dont de la fiction, pas seulement ses travaux de recherche, bien que pour lui, c'est jamais loin les documentaires, c'est jamais loin la réalité qu'il vit, à Naples notamment. Et justement, il y a ce livre, ce petit livre, qui est assez effrayant, je veux dire, parce que ça traite aussi de la mafia. Bon, mais la mafia, c'est un nom très générique, comme tu sais. C'est un peu comme quand on parle du vin, mais après, il y a le Bordeaux, etc. Donc, il y a la Cosa Nostra, la Camorra. Et puis, en l'occurrence, il s'agit d'un gang ou une paranza, comme ils les appellent, qui concerne un gang des gamins, des jeunes entre 18 pour les plus vieux et 10 ans pour les plus jeunes.
Il y en a qui commencent bien leur vie.
Et oui, il y en a qui commencent parce qu'apparemment, les flingues sont de plus en plus maniables. Et puis les jeux vidéo sont très utiles pour s'entraîner. Et puis, donc, c'est ces gangs des gamins qui existaient vraiment, enfin, avec quelques maquillages littéraires, mais qui existaient vraiment, dont les leaders étaient non seulement un garçon. Extrêmement courageux, mais brutal aussi, mais aussi très intelligent, et qui lisait Machiavel et qui faisait des très belles dissertations sur Machiavel, mais qui lisait les enseignements de Machiavel pour gérer son équipe, on va dire, et qui, selon les nouvelles méthodes de management, et qui consistait entre autres à s'entraîner. Et dans des conditions réelles, afin parce que quand il faut bien tirer pour s'imposer dans ces domaines-là. Et il les entraînait, il les amenait dans un terrain d'entraînement qui était offert, on va dire, par la situation internationale, qui est la gare de Naples, dans laquelle il y a pas mal de gens sans papier, des réfugiés, etc., qui vont travailler, qui se cachent un petit peu pour survivre, et que tôt le matin, elle est pleine cette gare. Et puis la police, bien sûr, elle est moyennement intéressée par ce qui se passe là-bas, et à part s'il a besoin d'enfermer un petit peu un certain nombre de réfugiés. Et donc, ces jeunes, pour s'entraîner, pour être efficaces dans leur conquête du pouvoir à Naples, vont s'entraîner sur des cibles réelles, sur ces réfugiés à Naples. Et ça montre déjà l'état d'esprit de cette jeunesse, dont la devise est, comme disaient les rappeurs, 5 cents ou 10 cents, c'est un truc très bon marché comme ça, mais soit riche ou meurt en essayant de l'être. Donc pour eux, la vie se résume à s'enrichir, être les plus forts, ou mourir, c'est pas grave. d'ailleurs. Et c'est intéressant parce qu'il y a un parallèle entre les djihadistes, entre les jeunes djihadistes qui se font exploser, sauf qu'eux, ils les raillent un peu, des mêmes, eux, ils le font pour rien. Donc nous, on sait pourquoi on le fait.
Ouais.
Et donc là, c'est la seule différence. Et c'est un livre qui est poignant, qui est percutant, et qui, même s'il est dur, s'exprime une réalité. Et oui, ça mérite la peine d'être écouté.
Et puis, dans le monde littéraire, qu'est-ce qui se passe ces temps ?
Alors, ces derniers temps, il se passe des choses, dont les prix littéraires dont on a parlé tout à l'heure, les grands, c'est les premiers, toujours les grands prix de l'Académie française. Et, c'est toujours le premier, ça ouvre le feu. Et après, enfin, il y a d'autres prix un peu moins, entre guillemets, prestigieux qui sont donnés avant, mais il y a le prix de l'Académie. Et ensuite, il y aura les finalistes, la dernière sélection du concours et du Renaudot, qui sont toujours, comme tu sais, concurrents. Et
bien que soit Goncourt.
Oui, c'est Goncourt et Renaudant, mais il y a toujours les. Alors, les Goncourt, c'est les prix les plus rentables. Alors, les gens qui l'ont, ils gagnent rien. Hein, ils gagnent pas de l'argent. Ce qu'ils gagnent, c'est le prestige pour pouvoir vendre des livres, en quelque sorte. Et donc, le mois prochain, on en parlera, puisqu'à la fin de ce mois, donc bientôt, seront donnés les finalistes. Et il y a un certain nombre de livres qui sont en lecture chez nous. Alors, on verra bien. Il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de premiers romans. Et je pense que, oui, étonnamment, c'est pas toujours le cas, mais il y a des bons romans parmi les finalistes des différents prix littéraires. Il y a des personnes un peu originales comme Emmanuel Bayamak Tam, par exemple, qui est un auteur qui écrit. Sous deux noms, en fait, il écrit des romans policiers ou de suspense sur le nom de Rebecca Alighieri, et puis on en a lu d'ailleurs de ses livres. Et puis sur son nom, elle écrit des romans plus classiques, pour autant qu'on puisse appeler ça un roman classique, et comme celui-là, qui d'ailleurs est aussi dans notre liste, qui s'appelle Arcadie, et qui est candidat aussi au prix des fleurs, par exemple. Donc il y a des romans originaux. Et il y a des femmes, et puis il y a des bons romans, que ce soit fait par des femmes ou par des hommes.
Est-ce qu'on peut voir déjà, est-ce qu'on peut voir dans cette saison, cette rentrée, entre guillemets, une tendance qui se dégage ?
Alors,
je vais recommencer la question, parce que...
Ouais.
Est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage de cette année ?
Alors, il y a toujours, il y a des années où c'est la thématique. Alors, il y a plusieurs, mais il y a une thématique qu'on retrouve dans 4, 5, 6, 7 romans des éditeurs différents et des styles différents. Et notamment, il y a eu une année où j'étais, la Shoah, il y a toujours un livre qui parle de cette situation, mais il y a 3 ans, 4 ans, il y avait pas mal de livres prestigieux qui parlaient de ça. Il y a une thématique de tout ce qu'il a là. Les genres, les questions des genres qui ont été aussi l'année passée, il y a un certain nombre de livres qui parlaient de ça. Et il y a eu tout le problème de la colonisation, l'Algérie, et l'année passée. Et puis cette année, alors il y a deux choses. Il y a une thématique assez j'ai trouvé ça assez curieux, et qui est le rapport d'amour entre deux femmes. Et on le trouve dans au moins 4 romans de la rentrée, plus un essai, plus un autre livre, et des correspondances. C'est assez curieux, et des maisons très différentes. Alors ça, c'est un sujet que tout d'un coup, on le retrouve dans plusieurs romans en même temps, dont un roman qui sera sujet d'un petit exposé, en tout cas dont je parlerai la prochaine fois, parce qu'il est en lecture chez nous, et qui est candidat à plus d'un prix littéraire, qui s'appelle Elle raconte Sarah. Et donc là, c'est cette thématique-là, de cet amour, amitié ou passion entre deux femmes. Mais il y a aussi une autre thématique, d'ailleurs, qui est présente dans les livres que je mentionnais tout à l'heure d'Emmanuel Bayamak Tam, donc Arcadie, mais qui est présente dans plein d'autres livres de la rentrée, que ce soit ceux qui sont candidats au prix littéraire comme d'autres. Il y a un côté un petit peu dystopique. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de livres, que ce soit sous l'aspect de l'humour, comme celui de Franceschi, les nouvelles dont on a parlé déjà dans un BSR avec tout précédent, les nouvelles du futur, d'un Arcadie, qui est aussi un côté un petit peu aussi, en partie dystopique d'une société un peu étrange, comme dans Trois fois la fin du monde, et il y a plein d'autres aussi de la rentrée, où il y a quelque chose qui se passe. Le monde change, il y a une réalité qui n'est pas la vraie, et dans cette réalité-là, il se passe des choses, et parfois drôles, parfois pas tant que ça. Et donc c'est cette notion de cette dystopie, cette réalité qui part un peu dans tous les sens, et un monde parallèle qui s'est créé, qui est aussi une autre des tendances de cette rentrée.
Parfait, ben on se réjouit de bientôt découvrir tout ça.
Mais avec plaisir.
Et puis ben, au mois prochain. Ah, merci
à toi.